Sud Radio, ça roule.
Bonjour Pierre, ce matin dans Ça roule, on vient sur l'obligation des pneus hiver. On en avait déjà parlé à compter du 1er novembre prochain. On en parle car il y a du nouveau, c'est ça Pierre.
Bon, alors on est en France, donc évidemment ça va être un petit peu plus complexe. À partir du 1er novembre prochain, les pneus hiver deviennent obligatoires uniquement sur des zones restreintes qui étaient définies par le préfet. Eh bien, le ministre de l'Intérieur vient tout simplement d'ajourner cette obligation. Enfin, pas tout à fait. Ce qu'il dit, c'est que la sanction ne sera pas effective à partir de cette année.
Donc une obligation sans la moindre sanction, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et je trouve ça plutôt malin parce qu'il est vrai que les médias commencent à s'intéresser à cette problématique. Depuis quoi ? Allez, 2 semaines, ça laisse relativement peu de temps à des automobilistes de s'équiper, de se préparer. Il y avait un vrai déficit de communication. J'ai entendu moi-même beaucoup parler de pneus neige. Non, le pneu neige, ça n'existe pas. Il existe des pneus hiver. Le pneu hiver est efficace dès que les températures passent en dessous de 7 degrés. Pas question d'en faire uniquement un simple pneu qui roule sur la neige. Bref, c'était une vraie, vraie mesure positive. Et puis, j'ai envie de la résumer juste en un mot. Quand on part faire du ski, en principe, on ne met pas des sandalettes. Et bien sûr, nos pneumatiques de véhicule, il faut les équiper en conséquence. Donc, cette année avant la sanction permettra au gouvernement peut-être de se lancer dans de la communication et aux automobilistes de leur donner un petit peu de temps pour s'équiper.
Merci à vous, Pierre Chasseret. 6h18 sur Sud Radio, place à l'emploi. Maintenant, tout de suite dans le petit matin. Et c'est parti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, forcément, Jérôme Lavergne. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
Alors ce matin, on quitte le domaine de la formation pour proposer cette fois-ci des recrutements à pourvoir dès maintenant.
Oui, on quitte également le domaine qu'on avait la semaine dernière de grandes entités, mais d'entreprises qui se développent tambour battant en démarrant de concepts assez innovants.
Avec cette entreprise qui s'appelle Welcome at Work. On est avec son fondateur Nicolas Bevaden. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Alors, c'est un concept, expliquez-nous, qui est dédié donc à la création, gestion, animation des parties communes des immeubles de bureaux. C'est ça, expliquez-nous un petit peu le concept que vous avez à Welcome at Work.
Oui, exactement. Welcome at Work, en fait, c'est un ensemble de services sur mesure qui sont dédiés donc à la gestion et l'animation des grandes parties communes des immeubles de bureaux, inspirés des codes de l'hôtellerie haut de gamme. Donc, le concept, il est physiquement incarné sur les immeubles par nos salariés, qu'on appelle des Welcome Managers, qui au quotidien délivrent les services, donc accueillir les salariés et les visiteurs, proposer des services de conciergerie, des services de bien-être et organiser des événements pour faire vivre la communauté. Le concept aujourd'hui, il est déployé sur un peu plus de 35 immeubles en Île-de-France et en Belgique. Et sur ces 35 immeubles, il y a à peu près 300 entreprises qui sont hébergées. Ça représente à peu près 30 000 salariés qui y travaillent.
Il est né comment ce concept ? Comment vous avez eu l'idée de le fonder justement ?
Alors, c'est une excellente question. Le concept, il est né il y a un peu plus de 5 ans, à l'époque où il y a on commençait à se poser la question de l'impact des millennials, du digital sur les façons de travailler. Et à l'époque, ces réflexions-là n'étaient pas très abouties et on s'est inspiré de ce qui se faisait un peu dans le coworking qui commençait à arriver. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la tendance qui était la modification de la façon dont on gère les espaces de bureau a été accélérée par le Covid.
Ouais.
Et que clairement, aujourd'hui, on a un enjeu à faire revenir les salariés dans un nouveau bureau et Welcome at Work, c'est une assez bonne réponse à ce nouveau bureau.
Avec des recrutements que vous avez actuellement.
Oui, exactement. Alors, l'entreprise, c'est ce que vous disiez en introduction, elle se développe assez fort, puisque encore cette année, on a ouvert.
Ça s'est accéléré d'ailleurs avec le Covid, j'imagine.
Ouais, exactement. Alors, il y a eu une période de plat, forcément,
quand
c'était arrêté l'année dernière, mais là, on est reparti tambour battant en 2021. On devrait ouvrir presque une quinzaine de nouveaux immeubles. Et donc, qui dit nouveaux immeubles, dit recrutement. Donc là, d'ici la fin de l'année, on a une vingtaine de personnes à recruter, principalement pour des postes sur les immeubles, donc de welcome manager, avec 2 niveaux de seniorité. D'abord, des welcome managers seniors. Donc, on est plutôt sur des profils avec une première expérience significative dans l'hôtellerie au luxe et qui sont des welcome managers seniors, c'est un peu des patrons, des directeurs de site. Et puis, deuxième type de poste, des welcome managers pour le coup plus juniors, idéalement, mais pas forcément obligatoirement avec une première expérience dans la relation client, donc dans l'événementiel, le commerce, la réception. La bonne nouvelle, c'est que ces 20 postes, ils sont à pourvoir tout de suite et en CDI.
Avec, j'imagine, l'important aussi, c'est d'avoir une bonne présentation aussi, ça c'est capital pour ces métiers-là.
Oui, alors on a tendance à dire que tout est dans le sourire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du mot, c'est tout ce que ça incarne, hein, c'est le sens du service, c'est l'empathie, l'optimisme, la chaleur et la bonne humeur. Et ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que là, depuis le 1er septembre, on sent que les gens reviennent massivement dans les immeubles de bureaux et qu'il y a une vraie attente de chaleur, de retrouver le contact physique et que c'est le rôle des welcome managers finalement de réincarner, de redonner vie à ces immeubles de bureaux qui, pour certains d'entre eux, étaient vides pendant un an et demi.
Dans quelle région vous êtes implanté ?
Alors, on est en Île-de-France et en Belgique aujourd'hui, principalement, et on a des projets un peu dans toutes les grandes métropoles françaises qui sont dans les cartons, donc Marseille, Lille, qui devraient arriver courant 2022.
Vous avez expliqué un petit peu sur quoi ces welcome managers allaient finalement être utiles dans ces grands immeubles de bureaux, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme service ? Est-ce que vous avez des exemples à donner ?
Oui, alors effectivement, on a une première brique qui est de recevoir. Donc recevoir, que ce soit les visiteurs ou les gens qui travaillent sur l'immeuble. On a une deuxième brique autour de tous les services, de ce qu'on appelle les services de conciergerie. Donc les conciergeries, c'est historiquement du pressing, organiser des lavages de voitures ou de motos sur les immeubles, réparation de vélos, un sujet qui est en pleine explosion en ce moment, gérer ce qu'on appelle les collect stores, donc les colis que vous commandez sur Internet et que vous faites livrer au bureau et proposer cette offre de service, gérer la livraison de paniers de fruits, comme ça vous pouvez repartir à la maison avec le soir. Voilà, c'est tous ces sujets de conciergerie. On a aussi toute une thématique autour du bien-être, donc faire venir sur les immeubles de bureaux des ostéopathes, des masseurs, des kinés. Et puis la dernière brique, le dernier métier des welcome managers, c'est de faire vivre la communauté, d'organiser des événements. Donc là, on a mis le paquet depuis la rentrée, mais on organise des événements avec des conférences. On a fait par exemple venir Claudie Aigneret, première astronaute française, à être partie dans l'espace. On est venu sur un immeuble faire une conférence sur l'engagement. On organise des dégustations, des cocktails, voilà, faire finalement vivre ces immeubles. Et donc le rôle de welcome manager, c'est d'organiser toute cette partie-là.
Et ça recrute Welcome at Work. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Bevaden. Je rappelle, vous êtes fondateur donc de Welcome at Work. Merci à vous et bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Merci à vous également Jérôme Lavergne. On se retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi.
À demain Benjamin.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h23, très bon réveil avec Sud Radio. Aujourd'hui, souhaitons une bonne fête aux fleurs qui nous écoutent et puis joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 5 octobre. C'est le cas par exemple de cette actrice britannique qu'on avait découvert dans Titanic aux côtés d'un certain Leonardo DiCaprio.
J'ai confiance en vous. Ouvrez les yeux. Je vole, Jack.
Et oui, elle vole, Kate Winslet, qui fête ce mardi ses 46 ans. Elle en avait 22 au moment de tourner Titanic. Titanic qui décrochera pas moins de 11 Oscars, mais pas pour Leonardo DiCaprio, ni pour Kate Winslet, qui devra, elle, attendre 2009 et son rôle dans le film The Reader pour décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. Allez, autre anniversaire aujourd'hui. Alors attention aux oreilles avec ce chanteur anglais d'un des groupes les plus connus de hard rock. Et bon réveil! Ah oui! Ouh là là, ça fait du bruit! Avec AC/DC et la voix de Brian Johnson, 74 ans ce mardi pour ce papy du rock qui continue d'ailleurs toujours de nous en mettre plein les oreilles avec le 17e album d'AC/DC intitulé Power Up, sorti en novembre 2020. Un album qui s'est directement classé en tête des classements dans 21 pays du monde entier, comme quoi le rock peut-être encore un bel avenir devant lui. Et justement, on poursuit avec du rock. Sachez que c'est le 5 octobre 1962 que sortait la toute première chanson des Beatles. C'était quoi ? C'était Love Me Do. Et oui, la Beatles Mania qui avait débuté en 62 avec ce titre Love Me Do, une chanson composée par Paul McCartney alors qu'il avait 16 ans pour sa petite amoureuse de l'époque. C'est pas pour rien que le mot love, amour, y est prononcé en moyenne toutes les 6 secondes. Oui, c'est beaucoup. Et les textes les plus simples sont parfois ceux qui marchent le plus, qui fonctionnent le plus. Exemple, forcément avec ce Love Me Do des Beatles. 6h26 sur Sud Radio. Merci d'avoir choisi le petit matin pour débuter votre journée. Dans un instant, le retour de la météo de Rémi André, les infos et puis la vie en vrai. Bien sûr, vous nous appelez 0826 300 300 si vous avez un message à faire passer. Vous êtes les bienvenus à l'antenne. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Et c'est parti pour les courses avec le tiercé quarté quinté plus sur l'hippodrome de Chantilly aujourd'hui avec les préférés de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Alors vos préférés.
Nous avons rendez-vous avec le prix de la chambre de Monsieur le Prince aujourd'hui sur le tracé des 2000 mètres de la piste en gazon. 16 concurrents, dont le 3 Népalais qui sera mon favori, avec le 5 Magic Davier, 8 Super Sonic, 4 Bassette, 11 Villamoine Gramme, 16 Full Flow, l'As Brock et le 6 Cooper. 3, 5, 8. 4, 11, 16, As et 6 pour le quintet. Pour la sélection du jour à Vincennes en réunion 4 course 2, je vous conseille une petite info du sud-ouest, le 9 Hydromel.
Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier, pronostic à retrouver sur sudradio.fr comme toujours.
La météo Sud Radio
avec mistermenuiserie.com, le numéro 1 du portail motorisé à retrouver dans l'un de nos 150 magasins et sur mistermenuiserie.com.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Bon, la bonne nouvelle déjà, c'est du mieux dans le sud-est aujourd'hui, hein, Rémi.
Alors oui, c'est du mieux dans le sud-est où maintenant ces précipitations orageuses ont cessé. Il reste juste quelques ondées sur les Alpes-Maritimes. Cette perturbation finit d'évacuer d'ailleurs la partie est. Il en reste encore un petit peu sur l'Alsace. Mais déjà, la nouvelle perturbation progresse très vite, elle, sur la partie ouest du pays. Depuis la Normandie jusque vers la Nouvelle-Aquitaine, le Limousin, eh bien, cette perturbation donne là aussi des précipitations parfois assez soutenues. Mais elle passe très vite, c'est-à-dire que déjà en milieu de journée, on la retrouvera depuis les Hauts-de-France, les Ardennes jusqu'aux Pyrénées. Et ensuite, dans l'après-midi et la soirée, elle circulera vers le nord-est, épargnant cette fois-ci le sud-est. Quant aux températures, eh bien, ce matin, elles sont relativement douces, liées à cette présence nuageuse. Dans l'après-midi, eh bien, nous aurons des températures de saison échelonnées entre 17 et 23 degrés, jusqu'à 24 ou 25 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.
Merci à vous Rémi André. Très bon mardi à tous, excellent début de journée avec Sud Radio. Il est 6h30.
Parlons vrai.
Et tout de suite, votre journal avec Mathieu Bellissario. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, Facebook nous fait le coup de la panne. Le réseau social a été victime d'un bug mondial pendant plusieurs heures. Résultat, écran noir, service totalement inaccessible. On tentera de comprendre pourquoi. Plus de 2 ans d'enquête et des milliers de témoins entendus. Le rapport sur les abus sexuels dans l'église est remis ce matin. Rapport très attendu, notamment par les victimes. Et puis une passation de pouvoir à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Thomas Pesquet a pris les commandes de la station spatiale international. C'est une première pour un Français. Vous entendrez dans ce journal la joie de l'astronaute. Nous sommes désolés, les excuses de Facebook après la panne géante qui a touché pendant presque 7 heures le réseau social ainsi que les autres plateformes du groupe WhatsApp et Instagram. Des milliards d'utilisateurs ont été affectés. Tout est rentré dans l'ordre dans la nuit, mais pour le moment, eh bien, on ignore encore les causes précises de cet incident, Louis Crépeau.
Oui, dans un communiqué, Facebook a expliqué qu'un changement de configuration défectueux pourrait être à l'origine de cette panne géante, sans donner plus d'explications. En clair, il va falloir encore un peu de temps pour connaître les raisons exactes de cet incident qui porte un coup très dur à l'entreprise de Mark Zuckerberg, déjà mise à mal par les révélations d'une ancienne salariée sur les conditions de travail. Mais au-delà de l'image, eh bien c'est aussi et surtout un coup dur financier. Et oui, car ce bug mondial a déjà coûté très cher. Le cours de l'action Facebook a chuté de près de 6% en clôture de la bourse de Wall Street, soit 7 milliards de dollars perdus en quelques heures.
Les précisions de Louis Crépeau. Dans l'actualité également, 1700 foyers privés d'électricité dans le Var et des centaines de personnes mises en sécurité dans les Bouches-du-Rhône. Conséquence des fortes intempéries qui se sont abattues dans le sud-est du pays hier soir. À Marseille, où il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures, les dégâts matériels sont considérables. La cité phocéenne a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une douzaine d'établissements scolaires resteront également fermés aujourd'hui. C'est un rapport très attendu, un rapport accablant. Les conclusions de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église seront remises ce matin à 9h. Un tableau édifiant de la pédocriminalité des prêtres français depuis 1950. Au moins 2900 à 3200 prêtres auraient commis des violences sexuelles sur plus de 100 000 enfants. Des victimes qui attendent maintenant des réponses, Jeanne Biard.
Oui, mais surtout des sanctions. Mais elles pourraient arriver dans longtemps, voire jamais. La majorité des cas sont maintenant prescrits. La justice française n'aura donc aucun moyen d'action sur de nombreux pédocriminels. pédocriminel présumé. Reste le droit de l'Église, mais les procédures canoniques sont longues et opaques. Et le rapport, même s'il a été commandé par l'institution catholique elle-même, n'aura aucun pouvoir contraignant. Les évêques français ont tout de même promis de verser des contributions aux victimes dès l'année prochaine. Les premières réactions officielles sont attendues en novembre suite aux assemblées générales de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des religieuses et religieux des instituts et congrégations.
Et en attendant, le rapport doit présenter 45 propositions pour lutter contre la pédocriminalité dans l'Église. Journée de grève et de manifestations partout en France. La première depuis la rentrée, 4 syndicats appellent à manifester contre les réformes mises en place par le gouvernement, notamment celle des retraites et de l'assurance chômage. Conséquence, des perturbations sont à prévoir dans les services publics, les écoles, les crèches ou encore les transports, bus et tramways. À noter que le trafic SNCF ne devrait pas être impacté. La pédagogie plutôt que la répression, il y aura une tolérance d'un an pour les automobilistes obligés d'installer des équipements divers sur leurs véhicules. La mesure va devenir obligatoire dans 48 départements à partir du 1er novembre, mais le secrétaire d'État à la ruralité précise que la première année sera pédagogique. Les sanctions n'interviendront qu'à partir de novembre 2022. Feu vert pour la troisième dose de vaccin Pfizer pour les plus de 18 ans. L'Agence européenne du médicament approuve l'utilisation d'une dose de rappel pour tous les majeurs. En France, on le rappelle, elle était pour le moment réservée aux plus de 65 ans et aux personnes fragiles ou avec comorbidité. Enfin, Thomas Pesquet a pris hier soir le commandement de la Station Spatiale Internationale. C'est un événement, le premier français d'ailleurs à occuper ce poste. La passation de pouvoir avec son prédécesseur a donc été retransmise en direct hier soir sur la chaîne YouTube de la NASA. S'exprimant principalement en anglais, Thomas Pesquet a quand même prononcé quelques mots dans sa langue natale. Je vous propose de l'écouter.
Merci à tous les décideurs, tous les ingénieurs et tous les actifs du secteur spatial. Si aujourd'hui je deviens le premier français commandant d'un véhicule spatial, c'est en grande partie à vous que je le dois, donc j'espère qu'on peut s'en réjouir ensemble.
1, 2, 3, Expedition 65.
Voilà la joie des astronautes en direct de l'ISS. Et en tant que commandant de bord, Thomas Pesquet va devoir veiller à la bonne entente de l'équipage et diriger les opérations en cas d'urgence, un rôle qu'il va endosser jusqu'au mois de novembre avant de rentrer sur Terre après une mission de 6 mois dans l'espace. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. Excellente matinée à l'écoute de Sud Radio.
Merci à vous Mathieu Bélissario.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Bah oui, très bon début de journée avec Sud Radio, le petit matin qui va se transformer petit à petit en grand matin. Bah oui, ce sera dans un quart d'heure maintenant avec l'arrivée de Cécile le Minibus et de Patrick Roger à l'antenne pour vous servir jusqu'à 10h. Je vous rappelle d'ici là nos deux questions du jour sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui marchent bien. Bah oui, de nouveau, en effet, après la panne internationale mondiale hier, avec deux questions. La première, faut-il arrêter le port du masque au bureau et en entreprise? Pour l'instant, vous répondez oui à 91%. Et puis on revient aussi sur le rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église qui sera rendu public ce matin. Faites-vous confiance à l'Église pour venir à bout des abus sexuels? Eh bien, vous dites non pour l'instant à 78% sur Twitter. Vous continuez bien sûr de réagir et de voter sur nos réseaux sociaux. Allez, à 6h36, tout de suite, c'est La Vie en Vrai sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai.
Et vous nous appelez comme chaque matin 0826 300 300 si vous avez un message à faire passer à l'antenne. Aujourd'hui, on est avec Antoine Zapata. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes écrivain, auteur littéraire à Tarbes et vous souhaitez nous parler de deux livres que vous avez écrits.
Oui, bien sûr. Donc en fait, j'avais mis en avant deux romans qui étaient Souffle Amour et Nul ne veut l'amour du pêcheur. Avant la pandémie, alors du fait que j'ai pas pu mettre en avant ces livres-là, je profite de l'occasion sur Sud Radio pour vous en parler.
Oui, parce que tout a été un petit peu arrêté, les séances de dédicaces, les ventes. Alors déjà avant de développer, d'expliquer un petit peu, expliquer un petit peu déjà les histoires, c'est les histoires d'amour hein, dans les deux cas, c'est ça?
Oui. Alors, Souffle Amour, en fait, il s'agit d'une rencontre entre Marc-Antoine et Cléopâtre et deux personnages contemporains qui vont faire le lien au travers d'une bague et durant toute cette période, donc nous retrouverons l'amour tout le temps, tout le temps. Voilà, ça c'est pour souffle l'amour. Nul ne veut l'amour du pêcheur, là c'est carrément autre chose. On se retrouve donc au travers d'une famille qui vit la violence au quotidien et qui va découvrir un père très 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 violent, et au travers encore une fois de l'amour d'une famille et d'une mère, la reconstruction se fera petit à petit.
Sujet éminemment d'actualité, comment vous trouvez vos sources d'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire? C'est l'actualité, c'est ça? Ou des faits que vous avez vécus, que vous avez connus?
Alors essentiellement des faits que j'ai rencontrés. Donc Souffle Amour, ça a été au travers de deux personnes qui étaient collées quasiment tout le temps, tous les jours. Et cela m'a inspiré en me disant comme ça que l'amour pouvait exister réellement comme ça. En ce qui concerne Nul ne veut l'amour du pêcheur, là ça a été au travers de familles que j'ai rencontrées par le passé, à Tarbes justement, et qui m'ont raconté donc toute cette violence, toute cette perversion qui, donc concernant l'enfance maltraitée, qui a fait que ça m'a inspiré, ça m'a touché, donc j'ai voulu mettre en avant cette histoire-là.
Bien sûr. Vous parlez de votre ville de Tarbes, c'est une région, en tout cas une ville et une région que vous mettez beaucoup en avant aussi dans vos livres.
Oui, étant natif de là-bas, donc j'ai vécu, j'ai rencontré, et puis j'aime le sud-ouest, donc fatalement, moi je parle de ce que je connais, de ce que j'aime.
Alors, où on peut se les procurer, ces deux livres, Le Souffle Amour et Nul ne veut la mort du pêcheur?
Alors, on peut se les procurer chez l'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est Sidney Laurent.
Sidney Laurent,
la maison d'édition. Ou bien, on peut le rencontrer, retrouver aussi dans toutes les librairies. Grandes librairies, petites librairies, ou sur Internet maintenant.
Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup Antoine Zabata de nous avoir présenté. Alors je rappelle les noms de vos deux romans, Le Souffle Amour et Nul ne veut la mort du pêcheur. Merci de nous les avoir présentés Antoine Zabata. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous et merci à tout le monde.
Avec grand plaisir. Merci à vous. Allez, tout de suite à 6h40, c'est Curieux comme Rémi sur Sud Radio.
Sud Radio, Curieux comme Rémi. Rémi André.
Avec un très curieux comme Rémi ce matin, le cheval qui savait compter, Hans le Malin, s'est fait connaître au tout début du XXe siècle. Ce cheval était capable de faire, tenez-vous bien, des additions et des soustractions. Rémi, vous vouliez nous parler d'un spectacle de cirque que vous avez vu peut-être, non c'est ça?
Non, pas du tout, pas de cirque, mais j'ai trouvé cette histoire sur le site Futura Science. Permettez-moi donc d'évoquer l'histoire de ce cheval en particulier, Hans le Malin, comme vous l'avez nommé. C'était donc au début du XXe siècle, alors que l'Europe entière et même les États-Unis découvraient ses facultés intellectuelles, Hans était tout simplement capable de résoudre des problèmes mathématiques de base. Bon, disons plutôt précisément qu'il était capable de faire des additions et des soustractions, mais pour un cheval, c'est déjà plutôt pas mal.
Bah oui, c'est énorme. Il y avait un truc ou pas, Rémi?
Alors non, pas de truc. Lorsque son maître William von Esten, un Allemand ancien professeur de mathématiques évidemment, lui demandait combien font 2 plus 4, le cheval tapait tout simplement 6 fois de la patte. Impressionnant, n'est-ce pas?
Oui, c'est clair.
Et peut-être encore un peu plus lorsque l'on sait que Hans répondait aussi bien aux opérations posées par d'autres humains, de quoi conduire un groupe d'experts scientifiques à exclure toute possibilité de supercherie et à accorder la plus haute importance à ce remarquable cheval.
C'est quand même difficile à croire, mon cher Rémi, cette histoire.
Vous avez raison, mais c'est sans compter sur les compétences cognitives sociales impressionnantes des chevaux. Car vous l'imaginez très bien, les chevaux ne savent pas faire des additions, encore moins des soustractions. Les macaques et les abeilles, eux, le savent, mais pas les chevaux. En revanche, ils savent, et Hans le Malin tout particulièrement, lire en nous comme dans un livre ouvert. C'est un étudiant en philosophie, en médecine, qui s'en est aperçu, Oscar Proust. Au cours des expériences qu'il a menées avec Hans le Malin, il a noté que le cheval se trompait régulièrement lorsque les personnes qu'il interrogeait ignoraient elles-mêmes le résultat attendu ou lorsqu'elles se trouvaient en dehors de son champ de vision.
Mais alors comment il faisait le cheval à ce moment-là?
Alors ce cheval, loin de savoir compter, s'appliquait tout simplement à observer les stimuli visuels, y compris non intentionnels, des humains qu'il avait en face de lui. Et c'est ainsi que les chercheurs appellent désormais effet Cleaver-Hans, l'effet par lequel une personne peut obtenir une réaction motrice de la part d'un animal ou d'une autre personne, juste avec le regard.
Et qui est devenu ce cheval alors, Rémi?
Alors, l'histoire se finit mal pour lui. Devenu cheval militaire, il a probablement été tué au front en 1916, puis a été dévoré par les soldats. Mais ses capacités d'analyse des réactions des hommes n'en restent pas moins exceptionnelles. Et finalement, c'était bien Hans le plus malin.
Mais comme quoi, il est facile de lire en nous. Merci pour cette incroyable histoire, Rémi André. On vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour la météo du jour, cette fois-ci avec une amélioration dans le sud-est. Mais attention du côté de l'ouest, puisque la pluie revient. Merci à vous, Rémi André. Allez, 6h43, dans un instant, c'est le Minibus et Patrick Roger nous rejoignent pour le tout début, le tout départ du grand matin. Mais d'abord, hashtag on en parle sur Sud Radio et on va reparler, bien sûr, de ce bug énorme pour Facebook, près de 7 heures de blackout, voilà, de panne internationale. Vous l'avez peut-être vécu, on verra ça, on en parlera dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h46, c'est le rappel des titres sur Sud Radio. Le choc s'annonce est considérable pour le clergé et les fidèles. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église présente ce matin les conclusions de son rapport. Elle a travaillé pendant 2 ans et demi à la demande des évêques français. Ses travaux ont recensé environ 3000 pédocriminels dans l'Église depuis les années 50. L'heure est au nettoyage à Marseille au lendemain des inondations qui ont touché la ville. 2 mois de pluie en quelques heures, seulement quelques jours après la fin d'une grève de la collecte des ordures. Des associations d'ailleurs redoutent une catastrophe alors que des centaines de tonnes de déchets ont ruisselé dans les rues pour se diriger vers la mer. 4 syndicats et des organisations de jeunesse appellent à une grande journée de mobilisation aujourd'hui pour la défense de l'emploi et des salaires. La SNCF prévoit de son côté pas de perturbations sur les grandes lignes. Dans la plupart des régions, 90% des TER devraient, eux, circuler. Et puis, une panne internationale de 6 heures sur les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram sont de nouveau opérationnels ce matin. Bien justement, on en parle tout de suite avant de rejoindre Cécile Omnibus et Patrick Roger.
hashtag On en parle sur Sud Radio. Ben oui, on revient sur cette panne géante. Peut-être que vous l'avez vécu sur vos réseaux sociaux hier soir, une panne sans précédent qui a touché Facebook, Instagram, mais aussi la messagerie WhatsApp. Oui, il y a plein qui marchent. Ouh là, attention, oui. Autant de plateformes, en tout cas, restées muettes pendant plus de 6 heures, des plateformes qui appartiennent toutes à Facebook. Cette panne aurait d'ailleurs fait perdre Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, pas moins de 7 milliards de dollars. C'est énorme. Alors, difficile encore de comprendre ce qui s'est vraiment passé, les raisons de cette panne générale, internationale. Du côté de Facebook, on parle d'un changement de routers, mais sachez-le, parmi les conséquences de ce bug, eh bien, les employés de Facebook eux-mêmes n'ont pas pu entrer dans l'entreprise car leur badge ne fonctionnait plus. C'est ce qu'indique une journaliste du New York Times. Et alors, même Twitter a été impacté à cause du report massif des utilisateurs déçus de ne plus pouvoir se rendre sur Facebook. En tout cas, cette panne qui a depuis été donc résolue, elle a donné lieu à une flopée de messages humoristiques. Un brin humoristique, allez, quelques-uns de ces messages d'entre eux, pour en tout cas rien que pour vous. Premier message, moi je vous le dis, on était à deux doigts de rejouer à Tetris. Voilà le jeu de briques, vous vous souvenez, empilé, qui faisait fureur dans les années 80. Autre message, hâte de voir la file d'Instagrammeurs et d'Instagrammeuses devant Pôle emploi demain. Bah oui, bon, ça c'était avant que la panne soit résolue. Un dernier message, une photo, cette fois-ci d'Éric Zemmour avec ce commentaire. Quand on va retrouver nos applications et que notre prénom aura changé, petite pensée au Mohamed. Bon, une prédiction qui, à défaut de s'être réalisée, fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. 6h49, eux sont bien là. On rejoint Patrick Roger et Cécile de Minibus, c'est le grand matin. C'est parti.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus.
Bonjour Benjamin, bonjour Patrick.
Bonjour,
même
Cécile,
pas
bonjour
une panne de lit ce matin.
Bonjour, bah oui, et on ne peut incroyable. Même pas évoquer la panne Facebook ou WhatsApp pour ne pas venir au travail.
Ah bah non.
Dire
ouais.
Non, un peu comme le bus ou le train qui n'est pas passé. Là, WhatsApp n'est pas passé. Bah
WhatsApp.
Oui, mais d'accord, mais WhatsApp.
Ah
WhatsApp,
ouais, décidément.
WhatsApp. Bah ça, c'est joué à pas grand chose.
WhatsApp,
chronique sur les réseaux sociaux. J'aurais pu vous dire, bah, il n'y a pas de réseaux sociaux aujourd'hui, je ne peux pas vous faire de chronique.
Ça ne fait pas de mal d'ailleurs. Hein.
Oui, ouais, bah oui.
Alors, il y en a certains qui étaient paniqués, désorientés,
oui,
évidemment.
C'est,
alors, c'est vrai
détox.
Qu'il y a beaucoup d'activités qui passent par l'ensemble des réseaux sociaux, mais ça ne fait pas de mal non plus. De se dire, tiens, bah oui, comment faisait-on auparavant? Est-ce qu'on ne peut pas un petit peu réfléchir différemment, avoir d'autres conversations, d'autres centres d'intérêt? Je pense qu'on devrait faire une journée sans
détox.
Les réseaux sociaux.
Ouais.
Bah oui.
Mais une journée sans voiture.
Bon,
une
décide,
journée
hein.
sans les réseaux
vous
sociaux.
Quelle date, Patrick?
Non, mais vous imaginez.
Ah bah, ouais. Ça ferait du bien, je pense.
Oui, ça ferait du bien.
Mais avant, on faisait pareil. Hein. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, les enfants. Donc,
avant, vous n'aviez même pas de téléphone. Mon petit
Chéchi.
Non, mais
c'est vrai. C'est vrai.
Pas la radio.
Mon
petit Chéchi. Il n'y avait même pas la télévision. Mon petit Chéchi. Oui, alors, ouais.
Exactement. Mais moi, j'étais née pour la télé quand même.
Ah
je
ne
suis
bon
pas si vieille, je ne suis pas si âgée. Ou alors j'ai un bon chirurgien, mais tout va bien. En tout cas,
allez,
on vous souhaite un bon réveil.
Bon réveil ce matin, l'écoute de Sud Radio. Nous allons revenir sur, nous allons développer aussi les grands sujets de l'actualité du jour. Le rapport Sauvé qui est très attendu sur les abus sexuels dans l'Église. On parle de 3000 prêtres fautifs depuis les années 50 et des dizaines de milliers de victimes. C'est très attendu aujourd'hui. Certains ont quand même des doutes en se disant, est-ce qu'il y aura véritablement des conséquences par la suite et puis des décisions qui seront prises? On sera avec un avocat d'une victime tout à l'heure. On reviendra aussi sur ce bras de fer qui est extrêmement tendu quand même avec l'Algérie, qui est inquiétant d'un point de vue diplomatique. Lydia Guirous avec nous ce matin.
Et
hier soir, vous savez qu'il y a eu un débat entre Michel Onfray et Éric Zemmour.
Oui.
C'était au Palais des Congrès de Paris. Eh bien, on va essayer de le décrypter avec...
Elisabeth
Lévy sans interdit ce matin, avant de recevoir notre invitée politique qui sera Annie Genevard sur l'interminable feuilleton des LR. Je ne sais pas s'ils vont réussir à se mettre d'accord avant les élections présidentielles, tout de même, il faut y arriver.
Ils ont un peu de temps, mais il faut se dépêcher.
Il faut se dépêcher.
Et on vous expliquera aussi.
Annie Genevard, donc, qui est du bureau politique des LR, qui sera notre invitée à 8h15.
Et on vous expliquera aussi les Pandora Papers, et ça avec un spécialiste. Voilà, on vous expliquera l'évasion fiscale. Restez là, c'est le Grand Matin Sud Radio. Bon réveil, il est 6h52, c'est le Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.
Et proche des entreprises, puisqu'on parle des entreprises, de leur actualité, des commerces, des artisans, des professions libérales. Avec Xavier Sequeiro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur d'Active Expertise. Alors, pour faire le point sur votre activité, finalement, on parle de diagnostic immobilier dans le cadre de transactions immobilières.
C'est ça. Oui, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Avec des modalités obligatoires, aujourd'hui, encore.
Oui, oui. Alors, faut savoir que bon, les diagnostics immobiliers, quand on vend une maison ou quand on loue un bien, il y a tout un tas de diagnostics obligatoires, notamment le DPE, le diagnostic de performance énergétique, mm-hmm. qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Parce que voilà, il y a
contre les passoires thermiques, hein, on en parlera.
Exactement, exactement. Et donc nous, Active Expertise, on est un réseau de 117 diagnostiqueurs implantés en France et on intervient dans le cadre de transactions et de locations immobilières, tout à fait.
Justement, vous évoquiez ces nouvelles réglementations hein, contre les comme des audits contre les passoires thermiques. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des propriétaires aujourd'hui?
Ils n'ont pas le choix, quoi. Donc oui, la prise de conscience, elle est là parce que dans tous les cas, c'est obligatoire. Donc et puis la législation se durcit, comme on dit. Tous les biens qui sont classés aujourd'hui en F ou en G vont être classés en passoire thermique et à l'avenir, à très court terme, les propriétaires ont obligation de faire des travaux en fait.
Oui, c'est ça. Alors le chauffage représente en moyenne 60% hein, de la consommation énergétique des ménages. On parle de 7 à 8 millions de passoires thermiques. Est-ce qu'on se rend compte finalement qu'avec un bon diagnostic, on peut faire des économies?
Ben, en tout cas, c'est le but de nos diagnostics. Hein. Et nous, chez Active Expertise, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser les propriétaires au-delà simplement de faire un rapport et de fournir un rapport qui est obligatoire dans le cadre de la transaction. Ce sera nous notre rôle, il est d'informer le propriétaire et de le sensibiliser à faire des travaux, notamment en plus et à l'informer des aides qu'il peut avoir aussi par rapport aux aides gouvernementales. Quoi.
Mmh. Alors ça, ce sont les diagnostics qui sont obligatoires. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, mais qui peut aussi apporter quelque chose quand on est aujourd'hui propriétaire?
Aujourd'hui, pas grand-chose hein, pour être vraiment sincère.
Ouais.
Le français, si c'est pas obligatoire, il fait pas quoi.
D'accord.
Donc, heureusement que c'est obligatoire, sinon on vivrait pas. Donc, de notre métier. Honnêtement... C'est pas du tout rentré dans les mœurs que de faire appel à un diagnostiqueur et pour faire un diagnostic qui n'est pas obligatoire dans sa région ou dans son département quoi.
Ouais. Alors votre métier c'est plutôt très masculin chez vous. Beaucoup de femmes.
Malheureusement, j'ai envie de dire.
Ouais, malheureusement pas assez de femmes, mais ça arrive tout doucement chez vous.
Oui, alors nous, sur les 117 diagnostiqueurs qu'on est, on a peut-être une dizaine de femmes, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est pas nombreux, c'est pas représentatif, elles sont pas représentées dans notre profession, malheureusement, mais pour autant, elles sont très fortes dans le domaine quand elles sont diagnostiqueurs, elles font des très bons diagnostics et c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus.
Oui, c'est ça. Donc moi j'en parle parce que comme ça permet peut-être d'ouvrir aux auditeurs qui nous écoutent. Vous allez continuer effectivement de vous étoffer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une 117 implantations, vous allez grandir encore un petit peu.
On espère bien. On a encore pas mal de places sur le territoire à couvrir.
Le Grand Est ou en Bretagne par exemple?
Exactement, tout à fait. Dans le Grand Est, on recherche du monde. En Bretagne, on commence à en avoir. On en a signé un à Quimper cette semaine. Mm-hmm. Il y a des petits trous au niveau national qu'on compte bien combler. Aujourd'hui, ça fait que 10 ans que le réseau existe. En fait, notre 10e année.
Oui.
Et on a un développement qui est fulgurant, quoi, qui est pas mal, et on est assez content, quoi. Mais on compte continuer à se développer, atteindre peut-être 200 ou 250 implantations.
Plus il y aura de propriétaires, plus vous développerez. En tout cas, voilà, toutes les femmes qui nous écoutent, qui veulent venir devenir diagnostiqueurs. Voilà, c'est ça, je vous les envoie. Merci beaucoup, Xavier Sécabre, d'avoir été avec nous. Vous êtes fondateur d'Active Expertise, donc ces réseaux de diagnostic immobilier. Restez là, c'est le Grand Matin Sud Radio, 6h57.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.